Mimi, tu sais ce que j'aime le plus dans la journée ?
Bah dis-moi.
Quand tu me chuchotes que c'est l'heure de la JT du local.
Ce matin, en longeant la Mayenne, je me suis arrêtée sur le vieux pont. Les matins sont plus froids, il s'agit là d'un froid qui pique un peu les joues et qui réveille. Et je me suis dit que la Révolution aussi avait traversé ici, puisque la Révolution n'était pas seulement à Paris, pas seulement dans les manuels d'histoire. Ici, dans nos rues, dans nos campagnes, il y a eu l'effroi, les dénonciations, les disparus, la foi qu'on cache, la peur devenue plus forte que la parole. Et je sais que si je me pose cette question aujourd'hui, comment raconter la Révolution depuis Laval, 2 siècles plus tard, c'est parce que je sors d'une lecture qui m'y a ramené. Salvé Regina, un premier roman signé Jean-Luc Broudin. Et alors, je vais le dire à l'auditeur de l'autre radio, mais je ne pensais pas pouvoir être bouleversée par un personnage si loin de moi, un prêtre enfermé, malade, qui cherche encore un peu de lumière. Et pourtant, ce livre m'a traversée. Quand on le lit, on ne se plonge pas seulement dans une histoire ou dans la grande histoire. Ce sont des images, des odeurs, des lumières qui viennent à nous. Le marché, le pain chaud, le vin, la poussière du couvent et cette clarté qui se faufile dans la cellule de Joseph, cette chaleur sur la joue, on la ressent. Et je suis assez certaine que son auteur les avait aussi, ces images-là, ces odeurs, cette lumière, parce que Salvé Regina n'est pas seulement un roman historique, c'est un livre habité par la vie, par la foi, par ce qu'il reste d'humain quand tout s'effondre. Alors aujourd'hui, on va en parler de cette lumière-là et de cette question que je me posais en commençant le livre. Comment raconter la Révolution depuis Laval 2 siècles plus tard ? En refermant Salvé Regina, j'ai eu le sentiment que Jean-Luc Broudin y était parvenu, pas en expliquant, pas en reconstituant, mais en la faisant ressentir. Et avant d'échanger donc avec notre invité du jour, on fait un petit tour par Château-Gontier, enfin après avoir échangé avec notre invité du jour, Noé s'est rendu à la librairie Emlyre-Anjou, où l'équipe prépare un rendez-vous convivial bien connu ici, autour de la bande dessinée, un apéro BD. On va vous en parler en seconde partie d'émission puisque ça aura lieu le jeudi 14 novembre à 19h30, un moment pour échanger autour des nouveautés, partager des coups de cœur, découvrir de nouveaux univers graphiques et peut-être partir, qui sait, quelques jours plus tard avec une lecture sous le bras et des idées plein la tête. Et puis on terminera cette émission avec Donatien, Donatien qui aujourd'hui nous parle du cœur, de cet organe étrange qui s'emballe, se serre, rit ou pleure, ce qui fait qu'on se laisse encore saisir, s'il vous plaît, c'est important. Voilà, cette émission n'a plus de secret pour l'auditeur de l'autre radio, c'est l'JT du local qui commence. Je suis Margot et je voudrais que vous preniez ma main, puisque je vais vous emmener avec moi. Je ne vous emmène pas très loin, enfin si, assez loin mais dans le temps tout de même. Faites-moi confiance, montez le son et passons maintenant à l'entretien du jour.
Vous écoutez l'JT du local.
Et c'est sur l'autre radio. Alors comment raconter la Révolution depuis Laval, 2 siècles plus tard, peut-être en parlant d'un homme, d'un prêtre malade, enfermé, qui prie encore pour ceux qu'il condamne ? Peut-être en parlant de foi, de peur, de pardon et de cette lumière qu'on cherche au milieu du chaos. Jean-Luc Broudin, Lavallois, signe avec Salvé Regina un premier roman d'une rare intensité, un texte qui mêle la grande histoire et l'intime, la politique et la prière pour raconter ce qu'il reste de l'humain quand tout s'effondre. Jean-Luc, vous êtes justement avec nous aujourd'hui pour en parler. Merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci, merci à vous surtout.
Alors Jean-Luc Broudin, vous êtes né à Laval, vous êtes issu d'un milieu ouvrier. À quel moment l'écriture est-elle entrée dans votre vie ?
Alors l'écriture, elle a dû entrer par la lecture certainement, forcément au départ. Et ensuite très rapidement par des rédactions libres au collège, où j'avais l'occasion là de laisser libre cours à mon imagination. Et c'était la matière, en fait, je n'étais pas forcément très, très assidu et très scolaire, et c'était la matière où je brillais un peu plus.
Vous aviez déjà écrit des nouvelles avant Salvé Regina, certaines même primées. Qu'est-ce qui vous a donné envie cette fois d'aller plus loin jusqu'au roman ?
Alors en fait, j'ai commencé l'écriture par des nouvelles et par un site participatif sur Internet où on échangeait les textes avec d'autres internautes, et j'avais des bons retours. Et j'ai ensuite fait des concours Il y a beaucoup de concours de nouvelles en France. J'ai eu aussi quelques prix, donc c'était assez gratifiant et ça m'a beaucoup motivé au départ. Et puis, à un moment, j'ai repris une nouvelle qui avait été primée à Laval en 2000. C'était un concours de nouvelles organisé par le Courrier de la Mayenne et la mairie de Laval. Ce texte, je l'ai repris pour en faire un roman au moment en fait, où j'écrivais des nouvelles plus assidûment.
Voilà. Si on se penche sur votre roman Salve Regina, publié aux éditions Complicité, cette histoire se déroule pendant la Révolution française, ici à Laval. Alors pourquoi avoir choisi cette période et ce lieu, et comment est née l'envie d'écrire sur cette période de l'histoire précisément?
Alors, j'ai pas vraiment choisi, j'ai été presque guidé. Donc en fait, à une époque, j'ai eu besoin de retrouver un peu de spiritualité dans mon existence. Pas de religion, mais de spiritualité, de prendre du recul sur le monde, sur ma vie personnelle sûrement. Et j'ai commencé en fait à fréquenter. Si on cherche de la spiritualité à Laval, on a des églises. Donc je suis rentré de plus en plus souvent dans la cathédrale. Les murs épais me protégeaient de tout le monde entier et j'y retrouvais beaucoup en fait, d'intériorité. Et dans cette cathédrale à Laval, je suis tombé sur un tableau. Le tableau en fait, qui représente pendant la période de la terreur l'exécution de 14 prêtres vieillards et malades par des révolutionnaires. Et la scène, elle est violente sur le tableau, forcément. Et il y a un vieux prêtre qui est assis sur une chaise et c'est un jeune révolutionnaire qui le porte pour l'emmener à la guillotine. Et en fait, bon, en dehors de l'aspect historique ou religieux, je me suis dit, mais ce révolutionnaire, ce jeune homme, qu'est-ce qui fait que ce matin-là, il se lève pour porter son grand-père presque sur la guillotine? Et j'ai lu toute l'histoire, donc il y a un explicatif à la cathédrale qui explique donc toute la scène et comment c'est arrivé. Et je me suis dit, je voudrais bien écrire l'histoire de ce jeune révolutionnaire et qu'est-ce qu'il fait après ça, quoi. Quelle va être sa journée et comment ils vont finir leur journée, ces jeunes révolutionnaires qui portent un idéal qu'on peut très bien comprendre, forcément. Et je les imaginais boire de l'absinthe ou du vin dans leur taverne et peut-être en rire et peut-être en pleurer, quoi. Et puis, j'ai essayé d'écrire, mais ça venait pas. J'arrivais pas à me glisser dans la peau de ce jeune révolutionnaire qui pourtant... donc, il n'était pas proche de moi par l'âge, mais il était proche de moi par les idéaux, quoi. Et en fait, cette violence qu'il a suivie, j'arrivais pas à l'écrire. Donc, de fil en aiguille, je me suis plus retrouvé dans l'esprit de l'ecclésiastique, en me disant « je pourrais presque avoir son âge ». Bon, j'ai un peu plus jeune. Il a 74 ans. Et il n'avait connu qu'un monde. Il a connu le monde régi par l'Église, par la royauté. Il a suivi les préceptes. Il a cru bien faire, certainement, je me suis dit. Il a participé à un monde qu'on va détruire, et peut-être fort heureusement, mais lui, comment il peut comprendre ça ?
À la lecture de Salve Regina, moi j'ai eu l'impression que votre roman parle autant du passé que du présent. Est-ce que pour vous, écrire sur la Révolution, c'est aussi écrire sur notre époque ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a traversé au moment de l'écriture, ou qui vous est venu après, ou qui ne vous a même peut-être pas effleuré ? Mais moi, à la lecture, je l'ai ressenti très fort.
Non, ça m'est venu tout de suite en regardant le tableau, en fait. C'était quand même très peu de temps après la période des Gilets jaunes. Après le Covid, et on venait en fait en France d'avoir de gros événements qui bouleversaient notre quotidien, qui changeaient notre monde. Et on est dans un système aujourd'hui, bon, on est fort heureusement en France en démocratie, on est cependant dans un système mondial capitaliste. C'est aussi peut-être un glissement, comme une fin de période, on n'en est peut-être pas encore là, mais je me suis questionné là-dessus, en fait. Et cette scène, elle représentait peut-être un chaos, c'est assez difficile de le dire, mais peut-être un chaos possible, en fait, pour nous aujourd'hui. Et dès le début, je voyais le parallèle, en fait, entre les deux périodes.
Joseph, c'est le personnage principal de ce roman, c'est le narrateur du roman. On le suit tout au long de cette histoire. Il est pris entre sa foi et des bouleversements politiques. Qu'est-ce qui vous a touché dans ce personnage qui, en fait, n'est pas un personnage fictif ? Vous avez construit autour d'un personnage réel.
Alors, j'ai construit un roman historique et je me suis basé sur des faits historiques en recherchant dans les archives, dans les écrits, beaucoup d'écrits de Jocelyne Dlouski, qui est historienne à Laval, et aussi dans le magazine Oribus. Et donc, j'ai pris parti d'écrire avec des personnages réels. Tous les personnages du roman ont existé, on va reconnaître des noms importants à Laval. Les prêtres, ce sont leurs vrais noms également. Donc j'ai pris ce parti-là pour être dans la réalité de l'époque. Et j'ai créé d'autres personnages à côté. Toute la famille et tous les amis sont fictifs. Joseph, il est âgé, il est malade et il a perdu sa maman très tôt. Je trouvais qu'il était fragile, cet homme, et que je me suis rendu compte en définitive que sur son parcours, il avait dû affronter cette fragilité et la retrouver sur la fin de sa vie au final. C'était un personnage intéressant parce qu'il pouvait autant défendre ses idéaux, parce qu'il reste figé dans sa religion, et c'était pour moi le seul personnage qui pouvait quand même se dire oui, mais.
Votre langue est très poétique et incarnée. Elle permet, je trouve, la nuance qui est essentielle sur cette thématique et sur justement tout ce que traverse le personnage de Joseph. On commence en pleine période de révolution, mais on se replonge aussi dans ses souvenirs, dans ce qu'il a traversé et dans toute l'évolution de sa pensée et de son rapport à la foi. La nuance était essentielle pour vous au moment de l'écriture, de ce que vous vouliez que le lecteur ressente aussi.
Oui, alors je voulais surtout pas avoir un avis tranché. Et j'en ai pas, je crois. Et je voulais surtout pas prendre parti non plus. En fait, c'est un peu mon fonctionnement, presque. C'est mon fonctionnement. Il a ses travers, parce que parfois, ça peut être un manque d'engagement. Et c'est un fonctionnement qui plâche toujours en témoin, alors c'est plus facile. Et je pense que j'ai besoin sûrement de cette facilité et de ce détachement par rapport aux choses. Et c'est exactement pour ça, je pense, que j'ai plus écrit sur une période passée que sur une actualité qui me bouleverse autant aujourd'hui, en fait. C'est plus facile avec cette distance pour moi.
Quand on lit Salve Regina, on sent une attention très forte au corps, aux sensations, aux odeurs, à la lumière. J'ai la sensation, Jean-Luc, que vous écrivez presque par l'image. Est-ce que c'est juste ?
Oui. Oui, c'est presque... Dans ma tête, il y a un film. Ça, c'est sûr. Ouais.
Qu'est-ce que ça représente pour vous d'ancrer une fiction historique ici, dans votre ville natale ? Est-ce qu'il y a un attachement particulier ou est-ce que c'est un prétexte ?
Non. Alors, rapidement, dès que je suis sorti de la cathédrale, je crois, j'ai regardé Laval différemment. Et je marchais dans des rues où des hommes, beaucoup d'hommes, ont marché avant nous. Et je percevais, au fur et à mesure de l'écriture, je percevais tous ces gens, en fait. J'entendais les bruits, je marchais dans les rues de Laval, j'entendais les bruits des charrettes, des seaux qu'on jette dans la rue. C'était assez... ça, c'était même une très belle expérience. De plus, c'était durant les travaux de la place de la mairie. Et on a ouvert le cœur de la ville pour moi, en plus. Alors, c'était vraiment tout se rassembler au même moment, en fait. Je suis quand même très attaché à cette ville de Laval. J'y suis né. Donc, pour moi, c'est mes racines. Mes parents n'étaient pas originaires d'ici, mais c'est mes racines. Et c'est une belle ville, voilà.
Vous êtes retourné devant ce tableau à la cathédrale après avoir écrit ce roman.
Ouais, mais très souvent. Je pense que je leur parle maintenant aux prêtres.
Vous êtes issu, Jean-Luc, d'un milieu ouvrier. Est-ce que vous pensez que ça influence votre regard sur la littérature, sur les voix qu'on choisit de raconter ou pas forcément ?
Là, oui, c'est sûr. Ma sensibilité, elle est ouvrière. Et je pense qu'on est un peu tous conditionné un peu, même si on est capable de faire d'avancer beaucoup dans la vie, à travers les rencontres ou autres et les questionnements, mais on reste quand même attaché, je pense, à ces idéaux d'enfance. Et ça, c'est important pour moi. Oui. Dans ce livre, en fait, je retrouve aussi. J'ai fait comme Joseph, hein, j'ai retrouvé aussi ma famille, mon père, ma mère.
On parlait de ce tableau qui a peut-être été à l'origine de l'écriture de ce roman. Et alors, les images nous viennent à la lecture de votre roman, Jean-Luc. Mais il y a aussi une image qui est plus que palpable, c'est celle de la couverture du roman. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Alors, la couverture, au départ, je voulais mettre le tableau de la cathédrale. Mais bon, il est très connoté religieux et puis il est violent. Il est trop violent. Et c'est mon épouse qui a fait une petite aquarelle et qui représente en fait la pièce principale du couvent de patience où le prêtre est emprisonné pendant un an avant son exécution. Et donc mon épouse a fait une très 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 belle aquarelle. Et j'ai fait une grosse erreur, c'est qu'à l'édition, je ne l'ai pas mentionné lors de l'impression du roman.
On le fait là, ici, sur les ondes voilà. De l'autre radio. Quand on écrit un texte aussi habité, et alors habité, c'est vrai qu'on ne l'a pas précisé, mais c'est en fait un huis clos, presque, quasiment tout au long de l'histoire, c'est un huis clos. Alors effectivement, on en sort via les souvenirs du personnage, via parfois même des visions, des hallucinations. Est-ce que... En sortant de ce huis clos, en sortant de cette écriture, quelque chose s'est transformé aussi en vous, Jean-Luc ?
Alors, j'ai eu la transformation avant. Donc, j'étais en train d'écrire ma transformation. Le huis clos, il était important pour qu'on soit enfermé comme ce prêtre est enfermé, en fait. C'est un roman où il y a quand même beaucoup de mots. Il peut être un peu étouffant par moments, je pense, à la lecture. En tout cas, on manque parfois de respiration. Et c'est pas toujours ma façon d'écrire. Et je l'ai écrit comme ça parce que je pense que le prêtre, il est dans une telle confusion de pensées qu'elles peuvent venir vraiment de partout dans son esprit. Et il étouffe, en fait. Et c'est aussi sa maladie. Il étouffe.
Comment est-ce que vous conciliez votre vie professionnelle et votre vie d'écrivain ?
Alors, j'ai de la chance que je travaille en fait en système d'équipe. Donc, je travaille sur des horaires décalés, ce qui fait que parfois, j'ai des journées entières où j'ai bien travaillé la nuit, mais je peux écrire la journée. Bon, à la fin, il faut aussi savoir se reposer, mais j'y arrive ainsi en fait. Et ça, c'est aussi la phase... C'est aussi le moyen, en fait, de s'extraire du monde. Si j'ai travaillé dans la nuit et que je ne travaille pas la journée, je suis extrait du monde, en fait.
Qu'est-ce que peut la lecture dans un monde qui se rapproche plus ou moins du chaos que vous racontez dans cette histoire-là ?
Bah, la lecture, c'est le livre, c'est la plus belle invention de l'humanité, c'est sûr. Ça permet quand même... Enfin, le livre, il permet d'aller rencontrer des époques... des gens différents, enfin ça permet de tellement de rencontres et d'évasion, et il faut lire.
Et de retrouver peut-être une liberté que vous abordez, que vous creusez, je trouve, dans ce roman, cette question de liberté, de quelle forme est-ce qu'elle prend et comment on la trouve, comment on la cherche même. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez déjà une autre histoire en tête, Jean-Luc, une suite peut-être, ou un tout autre horizon ?
La suite, j'y ai pensé dès le début, en fait. Mais je n'aime pas les suites de base. Je ne lis jamais de suite et je ne veux jamais voir de suite au cinéma. J'ai commencé un autre roman, presque aussitôt. Parce que le fait, sans le vouloir, j'ai écrit un roman historique. Et je me suis rendu compte que c'est un peu mon credo, finalement. Donc je me suis souvenu d'un autre fait divers. Et j'ai commencé à écrire en janvier. Et je pense qu'il va être beaucoup plus important en termes de pages. Et c'est un fait divers qui se passe en 1930 entre Le Havre et les îles Kerguelen.
Si on pense à l'auditeur de l'autre radio qui nous écoute, mais tout simplement au lecteur de ce roman, qu'est-ce que vous espérez qu'il ressente à la lecture de cet ouvrage ? Qu'est-ce que vous espérez qu'il vous dise ? Puisque vous lui donnez rendez-vous, on va donner les dates juste après, vous me répondiez à cette question.
C'est pas forcément, je pense, un thème ou un thème, la révolution, un décor, tout ce qui est ecclésiastique ou pas. C'est pas forcément quelque chose qui peut attirer au départ le lecteur contemporain. On est loin des thèmes contemporains de l'écriture aujourd'hui. Mais en fait, je peux dire au lecteur qu'il va s'y retrouver dans ces thèmes contemporains, en fait. Et puis en fait, ça parle pas seulement de notre existence aujourd'hui, ça parle, je pense, de l'humanité et la condition humaine en définitive. Et c'est ce que j'écris, je pense, tout le temps.
On parle de bouleversement d'époque et de bouleversement intérieur, et je crois que c'est justement là que vous emmenez le lecteur qui lit cet ouvrage. Vous donnez rendez-vous justement à ces lecteurs pour des rencontres. Le prochain rendez-vous, je crois, c'est le 22 novembre.
Alors, c'est le 22 novembre à la librairie Aime-Lire de Laval, rue de la Paix, à partir de 11h pour une séance de dédicace. Et il y aura une autre séance de dédicace à la librairie Aime-Lire Anjou de Château-Gontier. Ce sera le dimanche 14 décembre. J'ai peut-être aussi avoir une proposition de la part de la bibliothèque de Laval. J'avais amorcé un peu un rendez-vous avec eux, donc ce sera en début d'année. Il y aura un article dans l'Ouest France également prévu prochainement. Et j'ai rencontré monsieur le maire de Laval et j'ai eu la chance de le rencontrer grâce à ce livre. Et je serai également dans un article dans le bulletin municipal en janvier.
Et donc on suit ça de près. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous aujourd'hui pour nous parler de votre tout premier roman, Salvé Regina, publié aux éditions Complicité.
Oui, édition Complicité que je remercie parce que j'ai envoyé forcément mon manuscrit par la poste à plusieurs maisons d'édition, une vingtaine, et 2 mois après, les éditions Complicité m'ont permis de faire cette belle aventure.
Et on a hâte de découvrir la suite. Merci beaucoup Jean-Luc d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup à vous.
L'autre radio, eh ben c'est la vie qui passe en direct.
En seconde partie d'émission, Noé nous emmène du côté de la BD, mais avant ça, je voulais qu'on continue dans l'émotion, en se laissant toucher différemment, par le rythme et par la voix. On écoute « Baisse les armes » de Feu Chatterton.
Un soir où je broyais du noir, j'étais seul au milieu d'une ombre. Je me noyais sur les boulevards quand elle a surgi dans mon ombre. Elle m'a dit, la rumeur court, que la mort nous suit au sommet. Elle m'a dit, la rumeur court, et toi tu devrais faire comme elle. Des kilomètres et des kilomètres à essayer d'être un autre que moi. Des kilomètres et des kilomètres à râler, à ne rien reconnaître. Des mois et des mois à cavaler, à courir à ma perte. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes, que tu redoutes la grâce t'attend, là à bout portant, au bord de la route. J'ai fait comme si tout allait bien, je n'ai pas plié genoux. J'ai fait comme si ce n'était rien, et j'ai rendu les coups. Puis j'ai fait scintiller l'armure pour qu'on ne me voie jamais faible. Avant qu'apparaisse ma blessure, je m'en vais sous un autre ciel. Des kilomètres et des kilomètres à essayer d'être un autre que moi. Des kilomètres et des kilomètres à me fuir pour ne pas reconnaître cette voix, là-haut dedans, maintenant je l'entends. Baisse un peu les armes, laisse venir les larmes, que tu redoutes, la grâce t'attend.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. On reprend la route maintenant avec Noé, on tourne les pages, on lève les yeux vers les bulles et les dessins, direction Château-Gontier. Écoutez.
On va pas se mentir, on adore recommander nos derniers coups de cœur à nos proches, soit pour propager certaines pépites oubliées au plus grand nombre, ou soit pour ravir notre ego. Le plus souvent, on s'arme de notre téléphone, on va sur les réseaux pour se batailler avec je ne sais qui, dans l'unique but de mesurer nos goûts en faisant nos petites recommandations. Tout cela reste sur la toile, l'interaction peut sembler stérile et parfois vain, mais si on le faisait dans un lieu prévu pour l'occasion, avec quelques dizaines de personnes, voire plus, afin de tout se porter vers le haut, un moment d'échange pur et convivial où tout le monde se sent bienvenu, comme si on était à la maison. Eh bien figurez-vous qu'en Mayenne, et plus précisément à Château-Gontier, va se tenir l'apéro BD au carré, organisé par la librairie Aime Lire, l'occasion rêvée d'aller à la rencontre d'autrui et de faire connaître au plus grand nombre sa BD ou livre préféré. Et on va en parler tout de suite sur l'autre radio. Déjà pour commencer, présentez-vous et où nous sommes-nous ?
Alors actuellement, on est dans la réserve de la librairie Mlirenjou, c'est pas très passionnant pour vos auditeurs. Mais je suis François, du coup je m'occupe du rayon bande dessinée à Château-Gontier depuis quelques années déjà. Et puis j'aime la BD, tout simplement.
Et comment est né ce projet et ces rendez-vous ?
Alors comment est né ce projet ? Ça fait déjà le 14e, donc ça fait quelques temps que ça existe. L'idée c'était de créer une façon d'emmener la BD aux gens et non pas laisser les gens venir à la BD. Et comme moi je suis intimement persuadé que les gens sont plus décomplexés dans un bar, je me suis dit à réussir à les emmener dans des lieux un peu plus... je ne vais pas dire plus français, mais plus ouvert, tel un bar, pour parler de la bande dessinée et que chacun s'y sente à même d'en échanger et d'en parler librement.
Comme ça, chacun est à son aise. On a moins le côté, imaginons, un peu élitiste du fait d'être dans une bibliothèque ou soit trop serré, on va dire.
Bah, je dirais pas élitiste, mais je dirais peut-être plus sérieux, parce que le fait, souvent dans une bibliothèque, il y a une notion d'espace entre l'intervenant et le public, et potentiellement ça peut créer des petites frontières, alors que bon, dans un bar, bah, y a du bruit, il y a de la musique, on parle, on échange des mots et des bières, et puis tout simplement, bah, ça reste plus ouvert et plus sympathique.
Comme ça, c'est beaucoup plus convivial et tout le monde s'y retrouve mieux. Et du coup, est-ce que c'est une volonté de rendre l'art de la BD plus accessible en soi ?
Bah, pas plus accessible forcément, mais vraiment plus laisser les gens... Leur donner la possibilité de découvrir. C'est pour ça qu'encore une fois, ça change de bar à chaque fois, ça change d'endroit. On a fait, pour résumer, on a fait à peu près tous les bars de Château-Gontier, on a fait le Palais, on a fait le BHV, on a fait le Bistrot, on a fait le Point Bar, on a fait au Garage aussi, qui est un petit centre d'art à Château-Gontier face à l'ancienne gare, on a fait la Loupiote à Housset, et là on découvre un nouveau lieu avec le bar du Théâtre des Ursulines. Le Théâtre des Ursulines, c'est le carré à Château-Gontier, et l'idée, voilà, c'est de découvrir des trucs un peu différents, quoi.
Est-ce que pour vous, du coup, c'est une autre manière de faire vivre le livre et la BD ?
Ah oui, complètement. Bah, c'est encore une fois, moi, je suis intimement persuadé que la librairie en France, je vais pas dire que c'est un temple, mais ça peut être compliqué parfois de passer les portes de la librairie. Alors nous, comme libraire, on va pas être là dans notre temple porte fermée. On va essayer d'emmener les livres aux gens, leur faire découvrir autre chose. Et comment faire découvrir ça ? Bah, en fait, en sortant, faire du hors les murs et amener le livre aux gens. Donc peut-être, oui, effectivement, démocratiser un peu la bande dessinée. Mais c'est surtout leur montrer que ça existe.
Et surtout aussi amener peut-être un nouveau public, un public qui n'irait pas vers la librairie, alors que là on emmène la librairie comme dans un autre endroit beaucoup plus accueillant.
Alors oui, après la librairie est accueillante quand même.
Oui, quand même.
Alors sincèrement, au début c'est un peu mon projet, me disant ouais, comme ça je vais peut-être découvrir des nouvelles personnes, tout ça. Bon, ils se rendent compte que c'est à peu près les mêmes personnes qui viennent à chaque fois, et j'en suis très heureux. Ça m'est arrivé cependant quelques fois de faire découvrir la bande dessinée aux gens qui étaient dans le bar de passage et qui sont greffés à l'événement, mais ça reste quand même je vais pas dire un petit côté entre soi, mais oui, forcément, on retrouve souvent les mêmes personnes. Mais ce qui est chouette, c'est que ça, surtout, là, ça leur fait découvrir des nouveaux endroits. Je suis particulièrement très content d'avoir fait ça au Garage, tenu par Jacques Morin et Monique Bretéché, qui sont deux personnalités de château qu'on aime beaucoup et qui ont un lieu absolument extraordinaire qui s'appelle Le Garage, qui est face à l'ancienne gare et dont on fait des apéros BD, mais on fait aussi d'autres choses, notamment la semaine prochaine, le samedi 7 novembre, on fera une rencontre avec Laurent-Frédéric Bollet, qui a écrit L'incroyable histoire de l'automobile en bande dessinée. Jaco étant passionné d'automobile, ça va être assez passionnant. Mais l'idée, c'est de ramener et faire découvrir des lieux aux gens. Alors pourquoi pas, peut-être que demain ça sera au musée, ça peut être sur les bords de la Mayenne, mais dans tous les cas il faut qu'il y ait deux mots qui sont l'apéro et la BD, qui sont de grandes passions dans ma vie.
Et de ce fait, pourquoi vous, en tant que libraire, c'est important de faire ce genre d'événement, de les monter, etc.?
Bon, parce que sinon, le train-train arrive assez rapidement. Enfin, le train-train arrive assez rapidement, oui et non. C'est toujours important d'accueillir les clients sur nos lecteurs à la librairie. Mais encore une fois, moi, j'ai, d'un point de vue très personnel, j'ai très très peur de l'entre-soi. Ça me fait, ça m'effraie un peu d'être tout le temps avec les mêmes personnes. Alors ça peut être très enrichissant, mais en fait aller se confronter à d'autres personnes, ça peut être très chouette, et notamment aller découvrir d'autres lieux, d'autres endroits, d'autres personnalités, et surtout de nouvelles personnes. Et ça, c'est hyper important, et je pense que l'apéro BD aide à ça. Moi, j'ai des amitiés qui sont créées grâce à l'apéro BD, de gens que je n'aurais pas forcément rencontrés à la librairie. Et il y a aussi le côté où en fait on connaît nos clients par le prisme, je ne vais pas dire client-vendeur, mais il y a un peu de ça, même si c'est le lecteur conseiller ici, mais il y a quand même un rapport peut-être un petit peu pécunier derrière. Le fait de parler de bande dessinée dans un bar, moi je vends pas les BD après, c'est juste des gars et des nanas qui adorent les BD, on en parle, on boit un coup, et puis après, ça, une fois que la présentation est terminée, les BD circulent, d'autres personnes prennent la parole pour parler de leur bande dessinée, et puis bon, souvent ça continue après, on continue un petit peu à échanger ensemble et à discuter autour d'un verre.
Oui, c'est comme un nouvel endroit d'échange, un nouvel endroit de rencontre pour certains, et qui permet de dynamiser le tout.
Exactement, oui, c'est un lieu d'échange. Je vais pas dire que c'est un café philo parce qu'on en est loin, mais c'est une notion de découvrir les gens en fait tout simplement différemment que par le prisme de la librairie.
Dernière petite question, est-ce que vous avez une recommandation de livre, de BD, un coup de cœur de 2025 pour l'instant?
Alors, c'est rigolo parce que on vous allait dire oui, non, mais il fait son auto-promo, mais moi je suis pas quelqu'un qui est passionné par la bagnole, loin de là. Je roule en berlingot pourri, pour ceux qui me connaissent et qui entendent ma voix savent de très, très bien de quoi, quel véhicule il s'agit. Mais quand j'ai lu l'incroyable histoire de l'automobile de Laurent Frédéric Bollet, qu'on fait en rencontre du coup la semaine prochaine, samedi 7 au garage, et ben je me suis rendu compte que l'histoire d'automobile n'était pas que du vroom vroom et du tut tut, mais on parle aussi de mécanique, on parle aussi de l'histoire sociale, financière, politique de plein de pays. Et en fait, c'est avec le téléphone portable, c'est sûrement une des grandes dernières inventions de l'humanité. Et ça a changé radicalement nos vies. Un des derniers coups de cœur, disons un peu corporate, ça va être l'incroyable histoire d'automobile. Et sinon, un autre coup de cœur que vous pouvez découvrir en magasin, c'est la BD d'Edouard Cour qui s'appelle Solideo Gloria chez Dargo, qui veut dire Adieu seul la gloire, où on découvre deux jumeaux, un frère et une sœur, qui sont, leurs destins sont liés autour de la musique. Il y en a un qui est un grand joueur d'instruments de musique, une cantatrice hors pair. Et leurs destins vont se croiser, se décroiser et surtout se retrouver pour se reséparer autour de la musique classique et notamment sur l'aspect de la création musicale. Et c'est sublimé par le trait d'Edouard Cour. C'est une ambiance légèrement gothique, non pas sombre mais vraiment gothique. Et c'est un très très bel objet et c'est sûrement un des grands albums de cette fin d'année à la librairie.
Eh bien, merci de m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup.
Avec plaisir. Merci.
Ces rendez-vous sont une manière de reprendre contact avec l'art de la BD, puisqu'à seulement s'évader dans nos lieux, nos arrondissements, on finit par en connaître par cœur ses chemins. Grâce à l'art de la BD, ses routes sont multiples et infinies, et des surprises s'y cachent à chaque recoin. Cette chronique est terminée, elle est à retrouver sur le site de l'Autre Radio en podcast. Il était rappelé que l'apéro BD se tient le 14 novembre 2025 au Carré. Pour l'heure, moi je vous dis à plus tard sur les ondes de l'Autre Radio.
Avant de se quitter, on laisse la parole à Donatien. Il nous parle aujourd'hui de ce qu'il y a de plus insaisissable, les rires, les larmes. Il va au-delà, évidemment, mais je préfère que vous l'écoutiez.
Donatien pensait avoir un cœur d'artichaut. Pour l'attendrir, il suffisait de la lecture d'une page de Marcel Pagnol quand la famille se réunit sous la lampe tempête. Il suffisait de quelques notes de piano sur un film d'Arthur Hiller adaptant une love story. Il suffisait d'une intro de Wallace Collection ou de la voix de Madame Butterfly guettant sur l'océan le retour de son amant. comme dans une chanson de Serge Reggiani, pour que Donatien sente monter les larmes, parfois il suffisait de presque rien, une triviale publicité télévisée ou, dans la réalité, le simple témoignage d'une poignante vérité, d'une souffrance muette ou d'un grand bonheur resté secret. À tous les cœurs d'artichaut, aujourd'hui TikTok fait subir une véritable course à l'échalote. Tous les moyens sont bons, voire parfois frauduleux, pour faire rire ou pleurer. Toutes les 30 secondes, émotion garantie. Ces images vont vous glacer d'effroi, vous faire trembler, ou au contraire, vous émerveiller. Vous n'allez pas en croire vos yeux, à vous couper le souffle. Fausse promesse. Ce n'est pas de voir les cris de douleur qui va vous arracher les larmes. Ce n'est pas de voir un chien déraper sur la glace, ni son maître chuter dans la piscine qui vont vous faire rigoler. À trop vouloir émouvoir, on ne fait naître que l'ennui, pire encore que l'exaspération. Seul ou en public, il est arrivé à Donatien, comme à beaucoup d'autres, de pleurer, de fondre en larmes ou d'éclater en sanglots. Il est arrivé aussi d'éclater de rire et à gorge déployée, et de tant rire jusqu'à pisser de rire. Dans ces moments-là, l'esprit est hors de contrôle. Il échappe à la raison. Une bombe explose. Le trop-plein de tristesse, d'émotions contenues, avec pudeur, déborde, dégouline sur les joues ravagées d'un visage inondé de pleurs. Les glandes lacrymales, le cœur et la vessie souffrent d'incontinence. Avec l'âge, malgré la douleur, le flot des larmes se tarit. Face au ridicule, les explosions de rire se désamorcent. Donatien, perdu dans le monde, ne sait plus trop s'il doit fondre en larmes ou éclater de rire. Les dialogues de Raymond Devos, ceux de Michel Audiard l'amusent, mais le visage de Fernandel et de Fernand Reynaud en noir et blanc l'attriste. Entre rire et chagrin, il écoute Nemorino, ce pauvre berger amoureux de la riche Adina. Celui-ci voit couler les larmes sur les joues de sa belle, et cette tristesse même le pousse à chanter sa joie d'être aimé.
Thank you.
L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Luc pour son passage dans le studio de l'autre radio. Merci pour cette émotion inattendue glissée au cœur d'une journée que je pensais ordinaire. On clôture cette émission, ce rendez-vous qu'on se donne chaque jour. Sa musique originale est signée Lénaïque Folzour. Avant de se quitter, on regarde ce qui nous attend sur les ondes de l'autre radio. À 19h, on prend la route avec Pierre Lemarchand et son Eldorado sonore, du folk, du rock. J'ai envie de dire que ce sont des paysages qui s'ouvrent à l'écoute pour nous en ce début de soirée. Et à 21h, on change de tempo, Frères de Chaussures, avec l'émission Frères de Chaussures. L'émission est animée par Fatshu, pour ceux qui aiment le rap français. Moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. On parlera cinéma et justice avec le Festival du film judiciaire de Laval. Et cette question, et si la justice se jouait aussi dans les salles obscures? D'ici là, retenez que les lundis n'aiment pas la précipitation. Prenez soin de vous. S'il vous plaît, faites-le bien.
Ça s'éteint.
Jusqu'à demain, Mimi.